Je bois à la concorde entre la République et le duché, dit aimablement le ministériel avant d'humecter ses lèvres. Je goûtais le pivois avec prudence. Une collation frugale, tu parles. Le nectar qu'on nous avait offert était une merveille, à la robe violacée, au nez envoûtant, aussi long en bouche que le baiser d'une fille amoureuse. Je n'en bus que deux gorgées. Mais il me monta aussitôt à la tête, comme si j'en avais vidé toute une cruche cul sec. Diletino éclusa sa coupe à grosses gorgées, puis claqua des lèvres avec gourmandise. « Fameux » approuva-t-il. « Exactement ce qu'il me fallait. C'est un Valanel, n'est-ce pas ?»«
Votre seigneurie a du palais, » complimenta le chancelier.
« On sait vivre dans votre étude. » Repartit le sénateur Skernitore en réclamant du geste un deuxième service. « Si nos tabellions avaient une cave aussi exquise que la vôtre, je serais sans doute plus assidu aux affaires de l'État. »
« Je rends grâce à la divine tétrarchie qui vous a mené sans mal jusqu'à la cour, » poursuivit Diacecrimène. « J'ai appris que vous aviez affronté du mauvais temps en mer. Je me félicite de constater que cela n'a point porté à conséquence et que vous avez pu nous verser le solde de la dot ducale. Pour l'instant, 400 000 florins dûment entreposés au château Chezel. » intervint le jeune clerc en tendant sa clé au chancelier. Celui-ci n'y toucha pas.
Vous la rangerez dans mon coffre, Erlan, ordonna-t-il, et vous transmettrez vos comptes à maître Libéralis afin qu'il établisse les lettres de quittance. Il parut nous sourire, bien que son expression restât difficile à distinguer. Libéralis est notre meilleur calligraphe. L'établissement du document ne prendra que quelques jours. Nous vous le remettrons sitôt qui seront apposés le sceau de la chancellerie et le grand sceau ducal. Dès qu'il vous plaira de régler le reliquat de 200 000 florins, nous vous fournirons la quittance définitive.
Cela pourra se faire dès que j'aurai remis mes lettres de change à son Altesse ducale, dit Cesarino.
Vous en aurez l'occasion sous peu. Le duc peut consacrer plusieurs jours à la chasse, mais je lui ai envoyé un messager dès que j'ai appris votre arrivée. Il ne devrait pas tarder à rentrer. Je suis persuadé qu'il vous chargera de remercier chaleureusement son Excellence, le Podestat Ducatore, au nom de leurs Altesses ducales, pour la gratification de 100 000 florins accordés à la naissance de leur premier-né. Le duc et la duchesse ont été très touchés par ce geste. Mon oncle était si ravi d'être grand-père qu'il lui a semblé tout naturel de pourvoir aux besoins de son petit-fils. J'ai moi aussi apporté un cadeau pour mon petit cousin Léoguer, un peu plus modeste, je crains. Je n'en brûle pas moins de faire sa connaissance.
Comme je vous comprends. Le petit prince ducal est pour l'heure en nourrice à Carouel. Il est en parfaite santé. Son Altesse ducale Clarissima vous le présentera sans doute au plus tôt.
Et comment se porte ma cousine ?
Au mieux. Elle a fait mentir toutes les médisances que des mauvaises langues ont eu l'impudence de formuler sur la délicatesse de sa constitution. La grossesse s'est déroulée normalement, l'accouchement s'est passé sans alarme, et son Altesse ducale vient de célébrer ses relevailles.
Forcément, me disait Ginepeto, les mauvaises herbes sont toujours les plus vivaces. Pendant que Cesarino causait layette avec le chancelier, je laissais mes yeux traîner de droite et de gauche. De part et d'autre de la chaire de Diacecrimène, à portée de main, était disposé un mobilier de lettrés assez luxueux, comportant plusieurs lutrins à empiètement sculptés, dont la vis de bois permettait de régler la hauteur. Les tablettes de ces pupitres étaient couvertes de registres et de documents, lestées de deux abacs en bois précieux, mais aussi d'instruments inattendus, comme un compas à pointe sèche ou un bel astrolabe gravé. Juste à côté du chancelier, une grande sphère armillaire posée sur un trépied étonnait dans ce repère de gratte-papier. Cette sphère céleste, qui n'avait guère d'utilité dans une chancellerie, semblait placée là à dessein, de façon presque ostentatoire. La noblesse se met souvent en scène dans des atours luxueux, des armures splendides ou sur des chevaux de race.
Magnans Diachekrimen, quant à lui, arborait sa prétention au savoir. La duchesse ayant eu vent de vos mésaventures en mer, elle s'est inquiétée pour vous, seigneur Cesarino, rapporta le ministérial. Je l'ai rassurée en lui disant que rien dans le cours des astres ne vous prédestinait à un sort funeste. Mais je pense qu'elle sera ravie de le vérifier de ses propres yeux. Vous savez déjà que nous avons essuyé une tempête ? S'étonna le neveu du podestat. Ce n'était pas difficile à déduire. Toute la côte du duché a souffert du mauvais temps. Je me vanterais cependant si je prétendais en avoir inféré vos tribulations. En vérité, les nouvelles vont vite en Bromel, plus vite qu'un navire qui lutte contre le flot du Vernobre. J'ai appris par mes relations à Longomore que votre galéas amiral se trouvait en cale sèche. On m'a même rapporté des nouvelles que vous n'avez peut-être pas encore. Trois autres galères de votre escadre ont mouillé à Moreuc peu après votre départ. Leurs avaries les avaient retardées, mais il semble au final que vous n'aurez perdu qu'un bâtiment. Eh bien, voilà des nouvelles qui redoublent notre plaisir d'être arrivés à bon port, dit gracieusement Cesarino, en faisant mine de ne pas comprendre qu'on cherchait à l'impressionner. Le Sénat de la République a-t-il voté les subsides pour compléter l'escadre Faleri ? Poursuivait le chancelier sur le ton de la conversation. On procédait à l'armement des galères quand nous avons pris la mer. Sauf imprévu, l'amiral Faleri disposera de ses forces d'ici 2 à 3 semaines. Ce serait parfait. Le duc aura rassemblé le banc et l'arrière-banc à cette date. Et je dois avouer que les fonds que vous venez d'apporter aplaniront quelques difficultés. Des coups bruyamment heurtés à la porte interrompirent la conversation, et le seigneur de Vernejoul, toujours déguisé dans son splendide costume vert, fit irruption dans les lieux. « Ah ! Je savais bien que je vous retrouverais ici » grommela-t-il avant d'adresser au chancelier un salut plutôt cavalier. « Ce jeune clerc n'en a fait qu'à sa tête !» protesta Ollier de L'Aulnay. « Et j'ai perdu du temps à vous chercher dans les antichambres. Madame la duchesse est impatiente de vous voir. Vous l'allez faire attendre. » Le gaillard avait l'air aussi furieux qu'inquiet. Sans doute Clarissima avait-elle déjà trouvé l'occasion de faire ses griffes sur son amour-propre, et redoutait-il sa réaction. « Je crains que nous ne devions prendre congé, » s'excusa Cesarino auprès du chancelier. Celui-ci nous libéra d'un geste magnanime. « La duchesse doit brûler de vous revoir, » sourit-il. « Nous aurons d'autres occasions de deviser. » Et je reste honoré d'avoir reçu la primeur de votre visite. » Au moment où nous nous apprêtions à quitter la pièce, de L'Aulnay se racla la gorge, puis énonça en me toisant d'un air compassé. « En fait, madame la duchesse n'accorde audience qu'aux seigneurs césariens et dilettins. » On le lorgna un instant tous les trois. Le temps de saisir de qui il voulait parler et d'interpréter le non-dit. C'est sans doute un oubli, s'entremit diplomatiquement Cesarino. En aucun cas. Madame la duchesse a émis expressément le vœu de ne voir que son cousin Razicaire et le sénateur Chernitour. Pour l'instant, le seigneur Bénévente n'a pas été requis. En d'autres circonstances, et si je n'avais pas déjà supporté cette nouille, je crois que je l'aurais aidé à rectifier la prononciation de nos blases à ma manière. Mais j'étais troublé par la façon dont j'étais écarté. Ma disgrâce me sautait à la gueule, aussi cuisante qu'un soufflet. Et pourtant je ne savais pas très bien comment l'encaisser. Clarissima se contenterait-elle de me snober? Après tout, si je consentais à m'asseoir sur ma fierté, cela arrangerait plutôt mes affaires. Ou n'était-ce que le premier des petits cailloux que la mijaurée comptait semer dans mes souliers? Dilettino me daubait avec dérision, tandis que Cesarino me considérait avec un embarras poli. J'étais sûr que le gentil Patrice allait s'entremettre, et je le savais suffisamment habile pour embobiner cette tourte de Vernejoul. Mais j'avais aussi la certitude que, paraître devant Clarissima en dépit des ordres qu'elle avait donnés, ne ferait qu'envenimer les choses, et je m'apprêtais à dissuader son cousin. Je n'en eus pas le temps. Le chancelier me grilla la politesse. Son Altesse ducale est sans doute fatiguée, et ce serait trop d'émotion pour elle de recevoir tous les émissaires de son père, intervint-il. Ménageons-la. S'il le désire, le grand argentier Djezoufal pourra me tenir compagnie pendant que vous retrouverez la duchesse, mes seigneurs. Je n'étais pas dupe sur les intentions du vieux renard. La porte de sortie qu'il m'offrait était aussi une façon de nous obliger. Mais dans une certaine mesure, il me sauvait la face tout en satisfaisant aux caprices de la pécore. Je crois que je vais rester pour vider une autre coupe de votre petit Valanel, seigneur Diachekrimen. Fanfaronnai-je pour masquer mon malaise. Je le discernais toujours aussi mal, mais j'aurais juré que le ministérial me faisait un signe d'intelligence. Ollier de L'Aulnay ayant l'air aux 100 coups, les deux patriciens lui emboîtèrent rapidement le pas. « Je transmettrai tes hommages à Clarissima, » ricana Diletino au passage. Je ne doutais pas que cette sale petite fiotte allait me soigner, mais je fis de mon mieux pour que nul ne vît combien le poing me démangeait. Lorsque mes deux collègues eurent disparu, le chancelier m'invita à reprendre mon siège. Il faut souvent avoir plus de vertu que les grands pour s'abaisser à les servir, philosopha-t-il. Je ne sais pas si j'appellerais ça de la vertu, grommelai-je. Ces mots eurent l'air de le dérider. Sans y avoir été convié, Erlan s'assit avec des involtures sur le banc que venait d'occuper Cesarino. Magnence Diachekrimen ne donna pas l'impression de s'en formaliser. La familiarité qui existait entre le dignitaire et son petit clerc entretenait mon malaise. Quel lien pouvait associer ces deux-là? Erlan était-il l'oreille du duc? Ou le chancelier utilisait-il le jeune bâtard pour consolider sa position auprès du suzerain? Le plus probable était une combinaison de ces deux hypothèses. Plus que jamais, j'avais intérêt à surveiller ma langue. Alors rappelons cela comme il vous plaira, du savoir-faire ou de la sagesse, seigneur Benvenuto, poursuivait le chancelier. La vieille noblesse ne saurait se passer des talents d'hommes nouveaux comme vous et moi, mais elle ne peut s'empêcher de les traiter avec condescendance. Plutôt que la volonté de blesser, il faut y voir celle de se rassurer. Le ministérial, quant à lui, ne faisait pas grand cas de la prudence. Je jetai un regard en coin à Erlan pour voir quel visage il faisait à ce propos de moraliste. Le petit furet écoutait en souriant, l'expression dangereusement ouverte. À vrai dire, je préfère éviter de me poser ce genre de questions, répondis-je en pesant mes mots. Chacun son truc. Et tant que les paroles sont tenues de part et d'autre, les chichis me glissent dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. « Vous êtes donc un sage, » me chambra doucement Diachekrimen. Ouvrant les mains dans un geste d'une cordialité étudiée, il ajouta « Je suis ravi que vous acceptiez les caprices de son Altesse ducale avec tant d'équanimité. Mais il est vrai que vous avez l'habitude du monde. » Et que vous connaissez la dame depuis plus longtemps que la plupart d'entre nous. La connaître, c'est beaucoup dire, nuançai-je assez mensongèrement. Vous êtes trop modeste. L'écho de vos prouesses vous a précédé dans le duché. La flatterie ne me fit pas spécialement plaisir. Tout le problème était de savoir à quelle prouesse il faisait allusion. « J'ai fait ce qu'il fallait faire, rien de plus. » Ce qui, une fois encore, retouchait un brin la vérité. « En tout cas, » poursuivait le chancelier, « je suis fort aise que vous conserviez une humeur égale malgré la négligence dont vous êtes l'objet. Cela m'ôte tout scrupule à vous garder un peu pour moi. Nous serons plus libres pour deviser. Trop aimable, mais n'en attendez pas trop. » Après tout, je ne suis que le troisième homme dans cette ambassade. Vous vous sous-estimez, Seigneur Benvenuto. Et je vous prie d'excuser mon intérêt si vous le jugez trop pressant, mais comprenez ma curiosité. À ma connaissance, c'est la première fois que j'ai l'occasion de discuter avec un membre de votre honorable société. Je plantai les yeux droit dans les siens. Du moins, je fis tout comme, car ses pupilles étaient difficiles à accrocher dans ses orbites caves. Est-ce que ce grand camp savait ce qu'il disait? Oui, c'était évident. Il avait sciemment fait étalage d'informations qu'il n'aurait pas dû avoir avant nous. Et de toute façon, tout le monde connaissait mon fonds de commerce à Tchoudalia. Il n'y avait aucune ambiguïté. Il s'adressait aux chuchoteurs. Qu'il soit au courant de mon affiliation à la guilde, en définitive, n'avait rien de très surprenant. Mais qu'il ose m'en parler quasi ouvertement, sur le ton de la conversation, dans une pièce où il n'était gardé que par de chétifs gribouilleurs, voilà qu'il y avait de quoi me mastiquer une fissure. « Vous savez, » répondis-je en prenant mon temps, « la principale raison, et peut-être même la seule, pour laquelle cette société est honorable, c'est son goût pour la discrétion. » Voilà un goût partagé par les clercs de chancellerie. Soyez donc assuré que je respecte vos usages et que je ne désire en rien vous mettre dans l'embarras. Toutefois, dans les limites prescrites par nos activités, je trouve fascinant de parler à cœur ouvert avec un représentant de votre compagnie. Je suis persuadé que nous pourrions y trouver un profit mutuel. Corrigez-moi si je vous comprends de travers, mais en général, quand on me cause aussi franchement que vous le faites, c'est pour passer une commande. Vraiment? Aussi directement? Sans avoir recours à je ne sais quels intermédiaires ou signes de reconnaissance. Comme quoi, je m'étais fait bien des idées. Mais je ne puis que vous donner raison, tout se couvre et se cache sous le grand manteau de la simplicité. Je n'étais pas sûr de le suivre. J'avais la désagréable impression que l'intrigant parlait à double entente et me mettait à l'épreuve sans que je parvienne à cerner la nature de l'épreuve. L'expression encourageante du jeune Erland me confirmait dans ce sentiment inconfortable et me donnait furieusement envie de lui pocher ses chasses de fouines. Écoutez, lâchai-je sur un ton assez sec. Je n'ai pas trop l'habitude de tourner autour du pot, alors allons droit au but. Ça fait gagner du temps aux gens occupés comme vous et moi. J'ai saisi le message. Vous savez qui je suis et vous avez une idée de ce que je suis capable de faire. Vous savez aussi qu'on m'a envoyé ici pour que vous vous en rendiez compte et pour vous rappeler que le podestat de la République n'est pas seulement un grand papa gâteau. Comme les choses sont claires entre nous, est-ce que ça vaut le coup d'épiloguer? On s'est compris. Le chancelier se rencogna dans sa chaire en joignant les doigts d'un air pensif. Même un certain vacarme remonté de la rue par les fenêtres ne parut pas le distraire. « Oui, bien sûr. Encore que sans vouloir vous froisser, Seigneur Benvenuto, nous n'avions pas besoin de votre visite pour nous rappeler combien son Excellence Leonide Ducatore peut se montrer retorse. » « Toutefois, puisque vous présentez les choses ainsi, permettez-moi de vous donner un gage de bonne volonté. Je veux vous faciliter la tâche et vous dévoiler ce que vous êtes de toute évidence venu vérifier. » Je fis la tête du marle qui est au parfum, alors que je ne voyais toujours pas où il voulait en venir. Voilà longtemps que la noblesse bromaloise entretient des rapports étroits avec le patriciat tchoudalien, expliqua Giacicrimen. Nous perpétuons donc ces vieilles relations, y compris avec les maisons qui sont en conflit avec le podestat Ducatore. C'était donc cela. Le chancelier pensait qu'on m'avait envoyé espionner le double jeu de Ganelon. Vous ne m'apprenez rien. En vérité, quelque singulier que cela paraisse, Son Altesse Ducale Clarissima s'est prêtée de bonne grâce à cette diplomatie. Oserais-je en dire plus? On pourrait même croire qu'elle encourage cette politique. Elle est donc en relation directe ou indirecte avec un certain nombre de vos compatriotes exilés. Vous m'en direz tant, ricanai-je. Je me demandais si ce fouille-merde, dangereusement renseigné, était au courant de ce qui s'était réellement passé dans le palais Mastigia. En tout cas, il me parut plus que probable qu'il savait que Clarissima avait trahi son père pendant la guerre civile. Il va sans dire que la duchesse ne complote pas de son côté. Elle met le duc dans la confidence, qui use de son épouse pour conserver quelque intelligence avec vos maisons rivales. Vous savez, le podestat Ducatore n'est pas né de la dernière pluie. Il n'ignore rien de tout cela. Nous tenions juste à lui faire savoir que cette politique ne lui est en rien hostile. Il s'agit de parer à toutes les éventualités, et surtout de protéger nos côtes et nos navires marchands. Tant que nous restons en bon terme avec les familles exilées, nous limitons les risques de les voir pratiquer la piraterie sur des intérêts bromalois. En ce sens, Madame Clarissima remplit parfaitement ses devoirs de duchesse en traitant avec vos ennemis. Et en plus, ça doit drôlement l'amuser. Je vois que vous la connaissez mieux que vous ne le prétendez. Je me penchai un peu en avant en adoptant mon air canaille. Et je lui répondis sur le ton de la confidence, « Il n'y a pas qu'elle qui s'amuse, si vous voulez mon avis. Avouez que la blague vous fait bien rigoler. Vous me confessez des entourloupes que je connais déjà, et vous me vendez ça comme une fleur. » Pressentir une embûche offre moins de sûreté que d'en être averti. Je connais ce langage. C'est celui de l'escarpe qui s'est fait prendre la main dans le sac. Vous accordez trop peu de prix au gage de sincérité, Seigneur Benvenuto. Je vous ai dit ce que j'aurais très bien pu taire. Alors concluez l'affaire. Lâchez-moi quelque chose que j'ignore encore. Vous êtes bien gourmand. Et vous, vous venez d'encaisser 400 000 florins. Pendant que nous causions ainsi, l'animation ne cessait de croître dehors. On entendait piétiner toute une cavalerie et aboyer de nombreux chiens tandis que fusaient des appels et des cris. L'agitation sembla même se diffuser sous notre plancher, aux étages inférieurs. D'un geste, le chancelier ordonna à Erland de jeter un coup d'œil dans la rue, mais ne se détourna pas de moi pour autant. Cet argent relève d'une convention établie de longue date, me répondit-il. Le podestat Ducatore en a déjà obtenu une précieuse contrepartie. Écarter sa fille de Ciudalia pour l'installer dans une position éminente qui, il y a peu de temps encore, était solidement occupée. Et les 30 galères de combat que la République va mettre au service de la guerre du duc, elle compte pour du beurre? Mais peu importe, laissez tomber, seigneur Diacecrimène. On ne va quand même pas se mettre à marchander comme deux maquignons un jour de foire. Vous m'avez obligeamment mis en garde contre un danger que nous connaissions déjà. Votre prévenance sera appréciée à la hauteur du bienfait. La formule n'eut l'air de plaire qu'à moitié au ministérial. Son jeune clerc, qui s'était penché par la fenêtre, nous annonça d'une voix forte « C'est le duc! Il rentre de la chasse !»« Ah, fort bien !» se réjouit Diacecrimène. « Mon messager l'a donc trouvé. » Il a l'air de méchante humeur. Nous l'aurons interrompu avant qu'il n'ait pu sonner les honneurs. Il risque d'être dans un mauvais jour. J'ai l'impression qu'il a grossi son escorte, poursuivait Erland toujours le nez dehors. Avec ses compagnons, il y a des nouveaux venus. Domnal est arrivé. Et au moins un autre seigneur. Je crois bien que c'est le baron du Trèfle. Permettez, me demanda le chancelier. Puis il se leva et gagna lui aussi les fenêtres. Il jeta un coup d'œil vers le bas, en veillant à rester dans l'ombre de l'encadrement. « Effectivement, confirma-t-il, Rhin froid du Trèfle est arrivé, étonnant. Il a plutôt pour habitude de se présenter assez tard lors des levées du banc. Ces noms ne me disaient rien, mais je suivis le mouvement. Quittant mon siège, je gagnai la baie et jetai un œil dehors. Pour éviter de me coller trop familièrement au chancelier et à son larbin, je me postai un peu plus loin, derrière un battant toujours fermé. Je découvris effectivement une grosse cohue en contrebas, presque sous nos pieds. Mais les défauts du verre dans les petits carreaux ne me permirent pas d'en distinguer le détail. Mon attention fut surtout attirée par le panorama qui s'offrait au regard. Au dernier étage de cette grande demeure biscornue, on avait l'impression de se trouver sur la plateforme d'une tour. Par-delà le mur qui compressait cavaliers, piqueux et chiens dans la rue du Clostre aux Dames, s'ouvrait l'espace étonnamment verdoyant et vide d'un jardin monastique, fermé par la façade en bel appareil de l'hospice de la Déesse Douce. Par-delà, s'arrondissait le dôme en bronze verdi du temple de la vieille déesse, niché dans le labyrinthe des cloîtres de ses collèges. Derrière, les toits de l'Ose dégringolaient la pente de la colline en degrés circulaires, avant de s'agglutiner contre la muraille. La boucle majestueuse du Vernobre s'enroulait autour de la ville, franchie par les arches d'un grand pont fleuronné de tours. Sur l'autre rive, à perte de vue, s'étendait une campagne carrelée de hautes futaies, de prairies et de lopins. Troublant ce tableau champêtre, un mouvement de foule capta mon attention. Des troupes arrivaient dans le campement situé hors les murs. Malgré la distance et les ondulations des vitres, je les reconnus aussitôt, et elles me firent froid dans le dos. Elles possédaient l'allure des hordes qui avaient jadis assiégé Kelsbruck. Le duc avait donc recruté des mercenaires barbares dans son armée. Ce n'est pas dangereux de solder des ouromans pour attaquer l'Ouromagne, ne pus-je m'empêcher de dire. Vous n'ignorez pas que la concorde qui règne entre les clans n'a rien à envier à celle qui lie les grandes maisons tchoudaliennes, répondit le chancelier. Malgré le brouhaha qui montait de l'autel, on entendit des pas précipités dans l'escalier. Je m'attendis à voir réapparaître la trogne arrogante du seigneur de Vernoujoul. « Pour en revenir à ce que vous me demandiez, » reprit Diatchekrimen en s'écartant des fenêtres. Mais il n'eut pas le loisir d'en dire plus, car la porte s'ouvrit brusquement non sur le trévert relié de l'Aulnay, mais sur la rude carrure de Bérard d'Estrif. « Seigneur chancelier, » lança-t-il, « Son Altesse Ducale vous requiert immédiatement dans la salle du conseil. » Puis s'avisant de ma présence, il ajouta « Les ambassadeurs tchoudaliens sont aussi priés de se présenter séance tenante. » D'une inclination de la tête, Magnans Diatchekrimen signifia au chevalier qu'il répondait à la convocation. « Laissez-moi vous conduire, seigneur Benvenuto, » proposa-t-il avec urbanité. « Je suppose que vous ne connaissez pas encore tous les recoins de cette grande maison. Cependant, derrière le vernis de politesse, je sentis qu'il était troublé, sans parvenir à deviner s'il était surpris par la brusquerie de l'injonction ou par le fait que les représentants de la République soient de la fête. Précédé par le sire d'Estrif, on redescendit l'escalier étranglé qui desservait les bureaux de la chancellerie. Je ne parvins pas à reconnaître le chemin que nous suivions. Peut-être parce que le chevalier du duc nous fit bifurquer et traverser un entresol mal éclairé. En m'effleurant le bras, le chancelier murmura « Nous avons été interrompus, mais je n'ai pas oublié votre requête. Laissez-moi le temps de la réflexion et je verrai si je suis en pouvoir de vous donner des informations plus précises. » Comme nous nous engagions dans une galerie mieux aérée, je perçus le calcul dans son expression. Par mon intermédiaire, il essayait d'amadouer Cesarino et le Podesta. Mais j'étais persuadé qu'il ne pourrait me livrer des renseignements plus sensibles sans l'accord de son maître. Le petit laïus sur la condescendance que nous servait la vieille noblesse m'avait au moins confirmé une chose sur cet intrigant. Sa position à la cour de Bromel dépendait uniquement de la faveur du duc, car le reste de la gentilhommerie devait le mépriser. C'était bien la main de Ganelon qu'il fallait deviner derrière le petit manège du ministérial. Nous n'en apprendrions davantage sur les exilés tchoudaliens que si le suzerain décidait de les vendre. Le chevalier d'Estrif nous fit traverser une grande salle, luxueusement lambrissée et peinte, aux murs décorés de tapisseries chamarrées. L'endroit était noir de monde. Une presse où se mêlaient valets, dames de compagnie, piqueux, chiens de chasse, écuyers, héros, gens de guerre, religieux et musiciens. Cependant, cette société curiale baissait le ton. L'inquiétude se lisait même sur bon nombre de visages. À l'autre bout de cette vaste pièce, des éclats de voix s'élevaient derrière une porte fermée. Bérard d'Estrif nous y mena tout droit, tandis que la compagnie dont nous fendions les rangs nous jetait des coups d'œil intrigués ou suspicieux. Un huissier en livrée ducale ouvrit en grand devant le chancelier. Les aboiements proférés par un timbre autoritaire nous sautèrent alors au visage. Derrière moi, je sentis toute la cour se crisper, tandis que Magnence Tchatchekrimen se composait une expression d'humilité doucereuse. Nous mettions les pieds dans une pièce de dimension plus modeste mais richement ornée. Joliment lambrissée, le plafond à caissons orné de motifs grotesques, elle recevait un éclairage tamisé par de petites fenêtres à vitrail. Il s'agissait probablement d'une chambre à coucher, mais le grand lit à baldaquin avait été repoussé dans un angle pour dégager le plus d'espace possible. Une dizaine de chaires et de faux d'esteuil se trouvaient disposées dans un cercle irrégulier. Bizarrement, personne n'y siégeait. Les hauts personnages qui occupaient cette pièce se tenaient debout, pour la plupart dos au mur, au lit ou aux fenêtres. Un seul individu faisait les 100 pas en vitupérant au centre de la salle. C'était un type robuste, entre deux âges, vêtu d'un costume de chasse assez simple. Un peu dégarni, le menton couvert d'une barbe roussâtre, il avait la démarche arquée du cavalier et l'ascendant des capitaines rompus au commandement. Vibrant d'une colère qu'il avait peine à contenir, il tournait comme un fauve en cage en faisant claquer le parquet sous son talon, et vituperait un seigneur dont la figure s'allongeait d'instant en instant. « C'est de la trahison, trèfle !» fulminait le rouquin. « De la trahison ! N'essaie même pas d'invoquer la coutume, l'honneur ou je ne sais quoi. La vérité, c'est que tu t'es toujours montré tiède parce que tu crains qu'ils marquent. Les laisser échapper, alors que tu les tenais en ton pouvoir. Tais-toi ! Ne me parle pas de courtoisie, c'est de la complicité. Tu joues sur les deux tableaux, comme d'habitude. Mais ne crois pas que tu vas t'en tirer aussi facilement. » Bizarrement, dans cette compagnie de personnages en costume de chasse ou de voyage, le dénommé Trèfle était le seul, avec Bérard d'Estrif, à porter l'armure. Il était cuirassé dans un de ces grands harnois blancs qui devaient coûter leur poids en or et n'avaient d'utilité que pour le combat à cheval. Malgré cet équipement splendide, je trouvais que le preux seigneur n'avait pas vraiment la gueule de l'emploi. Sa tête intelligente et même un peu sensible jurait avec son attirail. Elle aurait mieux convenu à un prélat ou à un de ses maîtres d'école que le jeune Erland avait salué plus tôt dans la rue. Il faisait de son mieux pour essuyer la soufflante avec stoïcisme, mais ses lèvres frémissantes, son nez pincé et ses paupières papillotantes suaient la peur à chaque éclat de voix de celui qui ne pouvait être que Ganelon. Celui-ci se tourna brusquement vers quelqu'un d'autre. Un grand gaillard, plutôt jeune, mais déjà marqué, assez empâté, passablement débraillé, dont la frange blonde retombait sur un faciès grossier. « Et toi, Domnal, tu oses paraître devant moi en compagnie de ce pleutre. Ils étaient à ta portée. En te secouant un peu, tu pouvais leur mettre la main au collet. » L'intéressé n'eut pas l'air très impressionné par le reproche. Haussant ses grosses épaules, il se contenta de répondre « J'ai essayé de rattraper Blancandin, mais les esgourmands exigeaient leur solde. Ils ont failli me lâcher. J'ai été bien forcé de les amener ici. » Pendant cette tonique scénette, je restais sagement dans l'ombre du chancelier. Une précaution plutôt opportune, car au milieu de l'assistance, mon attention fut accrochée par un grand escogriffe en costume de chasse. À la différence de tous les autres, j'avais déjà croisé cet oiseau-là. Cela ne datait pas d'hier, mais de 2 bons lustres. Le briscard était devenu chauve et avait vieilli, mais l'âge semblait l'avoir plus durci qu'affaibli. En ravinant ce visage minéral et en conférant une rigidité sévère à cette haute stature, je me retrouvais en présence d'Anaro de Traval, désormais connétable du duché. Heureusement, la dernière fois que j'avais été en sa présence, je n'étais qu'un obscur double solde, et je n'avais eu aucun rapport direct avec lui. En plus, à l'époque, je possédais encore toutes mes dents, un nez à peu près d'équerre et quasiment un teint de jeune fille. Le baron de Traval n'avait donc aucune raison de se souvenir de ma gueule rafistolée, ni de faire le lien entre l'arbalétrier qui avait précipité la chute de Kelsbruck et le grand argentier de l'ambassade de la République. De fait, le connétable écrasait de son mépris le malheureux trèfle et ne m'accordait aucune espèce d'attention. Le duc, en revanche, finit par s'aviser de l'arrivée de son ministérial. « Ah, Magnance, j'ai besoin de toi !» lui lança-t-il. « Nous avons un imprévu. Il va falloir chiffrer notre marge de manœuvre. » Puis son regard glissa sur moi. « Qui est-ce » demanda-t-il en plantant ses yeux dans les miens. « Il s'agit de son Excellence Benvenuto Gesufal, le grand argentier de l'ambassade tchoudalienne, » s'entremit le chancelier. « Comme je vous l'ai fait savoir, les émissaires du Podestat Ducatore viennent de verser la presque totalité de la dot ducale. »« Ah oui, enfin, au moins cet argent arrive à point. Mais où est Razikari ?» Suivit un bref instant de silence. Je ne savais pas trop si la question s'adressait à moi ou à Diacekrimen. Finalement, ce fut le chancelier qui répondit. « Avec le sénateur Skernitore, il doit se trouver auprès de son Altesse la Duchesse. »« Eh bien, les retrouvailles familiales peuvent attendre. J'ai besoin du représentant de Ducatore séance tenante. » Me désignant d'un geste à ses cavaliers, le duc ajouta « Vous là, allez donc me chercher vos collègues. » Son Altesse ducale Ganelon de Bromel me traitait en larbin. Quoique de vieille souche plébéienne, pure lignée des bas quartiers, j'avais un peu perdu l'habitude d'être sonné comme un garçon de course. Le patron, d'accord, c'était le patron, mais à part le podestat, il n'y avait plus grand monde pour oser me donner des ordres. En plus, le duc me jetait dans les jupes de sa chère épouse, ce qui, dans un sens, ne manquait pas de sel, mais ne me faisait pas rire pour autant. Alors mon premier mouvement n'en fut pas un. Je ne bougeais pas. Tous les visages se tournèrent vers moi avec étonnement ou dédain, plus qu'avec désapprobation. On me prenait pour le métèque mal dégourdi qui n'avait pas compris ce qu'on lui commandait. En revanche, je sentis que le chancelier se raidissait, car il avait deviné que je regimbais. « Tant pis pour la duchesse, » chuchota-t-il entre ses dents serrées. « Conciliez-vous au moins le duc ?» Ce qui était frappé au coin du bon sens. Il fallait bien le reconnaître. Ravalant mon orgueil et mes simagrées ombrageuses, je jouais la hurie qui a du retard à la détente. En omettant de saluer, j'avais ma dignité quand même, je quittais la salle du conseil. Et puis une fois dehors, je me traitais intérieurement de couillon. Je n'avais aucune idée de l'endroit où se trouvaient Clarissima et ses invités.